La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.
De retour dans cette midinale spéciale débat du 6 juin 2022, toujours sur Radio Piquet. Voilà, une petite pause musicale, désolé pour le petit blanc au démarrage, quoi, mais on est revenu maintenant.
Donc on est revenu, puis je pense que ça va être la dernière partie.
Non, il y en aura une troisième donc, ouais, avec l'agenda
oui,
quand même.
Il y aura l'agenda, ouais. Mais la dernière partie sur la discussion là, qu'on a sur les élections législatives à venir, avec Pierre-Yves Cadalin qui est avec nous. Juste peut-être, avant de partir, je vous propose deux sujets. Le problème des institutions, parce que les institutions, c'est essentiel. C'est ce qui fait tenir une société par définition. Du coup, on va parler de cette idée de 6ème République et qu'est-ce qu'il y a derrière. Et peut-être, dans un deuxième temps, parler d'exemples concrets, par exemple les violences policières, racisme d'État, néocolonialisme, si ça vous va. Mmh. Et avant ça, Bastien, tu voulais te présenter de manière plus précise.
Ouais, bah
et
c'est.
Marouane aussi, peut-être.
C'est ça.
Tu veux commencer peut-être ?
Ouais, ok. Bah alors moi, en fait, à la base, on tient un blog avec des camarades qui s'appelle L'Hermine Rouge, qui est sur Internet. C'est un blog communiste. On a une association, du coup, pour organiser ça, qui s'appelle Les Amis de l'Hermine Rouge. Et voilà, bon, on est basé sur l'entièreté de la Bretagne, mais on a plus spécifiquement des antennes sur le Finistère et le Morbihan. Et bah, j'invite tout le monde à aller faire un tour sur le blog. C'est l'herminerouge.fr.
Merci, Bastien.
Alors, moi, je voulais dire, donc, du coup, que je faisais partie des Gilets jaunes de Brest. Et donc voilà, donc je viens aussi ici parce qu'on a pris position avant la présidentielle pour appeler à voter Mélenchon tout en restant indépendant et pas de manière naïve, hein, je veux dire, bon, je l'ai dit avant. Et pareil pour les législatives, donc du coup, voilà, on pense que une candidature, enfin, qu'il faut voter pour la NUPES et que c'est pas contradictoire avec de futures luttes sociales et tout ça. Mais bon, je sais pas si tu voudras que j'en dise plus après.
Non, mais là, c'est clair. Bah, si on a le temps, tu pourras. Du coup, partons sur ce premier point qui sont la question institutionnelle. On est d'accord pour dire qu'on vit sous la 5e République, issue, je rappelle, d'une espèce de coup d'État militaire. Voilà, c'est dit. Les institutions de la Ve République posent plein de problèmes avec un hyper-pouvoir qui est conféré au président, avec un Parlement qui est souvent qui est un peu limité dans ses prérogatives, et puis surtout avec cette espèce d'agenda qui s'est fait depuis 2002, où les élections législatives suivent les élections présidentielles. Bon, bah, ça donne une espèce de majorité parlementaire à la botte du président. Donc là, on peut se poser vraiment la question sur vit-on en démocratie ou ne sommes pas dans une espèce d'oligarchie présidentielle. Il y a le projet porté par l'Union populaire à la base, qui est repris dans le programme de NUPES, de la 6e République.
Mmh. Ouais, déjà,
je te laisse la parole, vas-y.
Ouais, moi, il y a David Graeber, qui est un anthropologue que j'aime bien, qui dit à un moment donné. Les démocraties représentatives dans lesquelles on vit sont un peu des exceptions historiques. Normalement, quand il y a un pouvoir démocratique, il ne s'étend pas de telle façon à être aussi vaste, en fait, à contrôler un territoire aussi vaste. Et un pouvoir qui s'étend sur un territoire aussi vaste n'a aucun intérêt, en fait, à se démocratiser. Donc il reste coercitif. Donc en général, il y a soit des pouvoirs démocratiques de petite échelle, soit des pouvoirs coercitifs de grande échelle. Ici, il y a une jonction des deux. C'est un événement historique énorme. Donc c'est quelque chose qu'il faut quand même préserver absolument. C'est-à-dire comme idée, c'est-à-dire la possibilité qu'on puisse s'organiser à grande échelle sur le plan démocratique, c'est essentiel. D'accord. Et donc il faut prendre notre parti de dire ben, finalement, tout cela est traversé nos institutions en permanence de rapports de force. C'est un peu ce qu'on disait dans la première partie, qu'il s'agit d'orienter. Il faut orienter les institutions à partir de ces rapports de force. On est rue Jean Jaurès, ça a été une des grandes questions de Jaurès toute sa vie. Je veux dire, on est aussi les héritiers de ce socialisme-là français. Il y a une tradition particulière du socialisme français. Voilà. Et c'est la tradition particulière du socialisme français, c'est la République sociale. Dans la 6ème République, en fait, ce projet qu'on défend, il est absolument transversal. C'est à la fois une intervention citoyenne plus grande, c'était une revendication centrale, par exemple, du mouvement des Gilets jaunes, mais également une étape supplémentaire en termes de droits sociaux, et surtout, j'ai envie de dire, enfin peut-être pas surtout, parce que c'est très lié, quelque chose qui est adapté également aux problèmes écologiques. Parce qu'on a bien vu que la Constitution actuelle, dans sa formulation, empêche des formulations et des formes de réformes écologiques au nom, par exemple, du caractère absolu du droit de propriété. Si le droit de propriété est un droit d'usage et non plus un droit absolu, eh bien, à ce moment-là, on peut dire, ben, effectivement, c'est normal qu'en 2030-2040, on arrête d'exploiter, en 2040, des hydrocarbures en Guyane. Là, avec Hulot, il avait fait cette réforme-là, eh bien, du fait de la Constitution, ça va jusqu'à 2060. Donc, c'est des aspects très... Enfin, là, encore une fois, hein, c'est la Constitution, elle peut changer le cadre dans lequel se prennent les lois. Et ben donc, c'est ce qu'on veut construire, à partir d'une... Déjà, tu disais, effectivement, d'un respect du Parlement. Mais là, avant même la 6ème République, les élections de juin sont une occasion sans précédent. Il y a une ambiance pourrie du côté de la Macronie. Ils se disent « Attends, qu'est-ce qui risque de nous tomber dessus ?» Là, les Français de l'étranger, il y a 10 circonscriptions sur 11 où ils sont au second tour contre nous. Ils n'en gagnent aucune au premier tour, alors que la dernière fois, ils en gagnaient plusieurs au premier tour. Là, ils sont un peu inquiets quand même pour la semaine prochaine. Et si le Parlement est de notre côté, ou qu'ils n'ont même pas de majorité absolue, un des deux cas... Je veux dire, ça va mettre une ambiance politique différente dans le pays. Parce que les questions fondamentales que se posent les gens par rapport aux besoins socio-écologiques dont on a parlé n'ont pas été tranchées par l'élection présidentielle. Donc là, pour le coup, il y a une occasion de reparlementariser la vie politique, même sous la 5ème République. Parce qu'il a des pouvoirs, le Parlement. Il faut juste qu'il s'en saisisse. Par exemple, il y a le référendum d'initiative partagée. Même si on n'a pas la majorité, mais qu'on a 185 députés... ou 189, je crois, on peut déclencher sur telle ou telle question des référendums, comme sur les aéroports de Paris, il y avait eu. Mmh. Bon, bah, on peut faire ça, et ensuite, il faut aller chercher les signatures, etc., pour déclencher un processus référendaire. Mais tout ça, c'est des outils versés au combat. Bah, le mieux, c'est d'avoir une majorité, comme ça, on gouverne, et puis on change les choses.
Après, moi, de façon plus fondamentale, la démocratie, c'est un ethos. C'est un ethos qui fait que les gens, les citoyens, les citoyennes participent activement à la vie politique, puissent faire les lois, puissent contrôler l'action de leur mandataire, l'action du gouvernement, etc.
Que tout le monde fasse les lois en même temps, c'est rien de...
Non, mais c'est pas possible. Il y aura de toute façon, il existe toujours peut-être une partie des gens qui ça n'intéresse pas.
Par exemple, référendum révocatoire.
Je finis sur ce que je voulais dire. Derrière, c'est une éducation politique, tout simplement. Quoi. Donc ça va toucher le système d'enseignement, ça va toucher le système d'enseignement supérieur, etc.
Les réseaux d'éducation populaire.
Bon, là, c'est un vaste chantier. Qui se fait pas comme ça, c'est des années après de lutte et de mobilisation qui nous dépasse un peu, je pense, hein. Bref, je sais pas, sur cette question des institutions, quelqu'un veut réagir, rajouter quelque chose?
Moi, je pense qu'en fait c'est vachement important, un peu comme ce que je disais la première partie, c'est important pour la classe opprimée, c'est quand même d'avoir des outils dont elle dispose concrètement du contrôle, quoi. On parlait d'éducation populaire, c'est important que ce soit fait aussi... Enfin, on peut pas attendre que l'État, à un moment, forme des petits révolutionnaires, quoi. Ça n'arrivera pas, même si on a la majorité au Parlement.
C'est pas l'objectif.
C'est pas l'objectif du tout, même. C'est-à-dire que c'est un moment, il faut que ce soit aussi... si on regarde, par exemple... je vais un peu prêcher ma paroisse, mais quand on regarde à l'époque du PCF, ils avaient des écoles. Ils avaient des écoles où ils formaient les cadres. Ils avaient des associations où ils faisaient de l'éducation populaire. Et maintenant, c'est vrai que, bon, en dehors du PCF ou pas, c'est pas les bas, mais c'était assez central. Si on regarde, par exemple, le communisme municipal, on regarde à Paris, là, toute la couronne rouge, les gars, ils tenaient tout, quoi. Même le club de pétanque, c'était le PCF qui l'organisait. Le journal dans le coin, par exemple, dans le Finistère, ils avaient... Il y avait des journaux...
Le cochonnet était rouge.
Mais dans le Finistère, il y avait des journaux, par exemple, des pêcheurs. Et c'était les pêcheurs eux-mêmes qui organisaient ce journal spécifiquement. Il y avait des journaux sportifs. Et tout ça était tenu par le PCF. À l'époque où c'était quand même encore un parti qui représentait assez bien une classe bon, qui depuis est atomisée. Je ne dis pas on va pouvoir revenir à l'époque, c'est même pas le débat en fait. Mais objectivement, par rapport à cet ethos dont tu parles de la démocratie, encore une fois, à mon sens, ça passe par l'organisation.
L'auto-organisation.
Ouais, il faut pouvoir se donner à un moment les outils quand même pour pouvoir avoir pour pouvoir appliquer des stratégies. On peut en parler, il faut théoriser et compagnie, mais à un moment, si on n'a pas sur le terrain des outils pour se faire, on ne pourra jamais y arriver, quoi. Et c'est là où je pense que la NUPES peut avoir un rôle aussi un petit peu organisateur, alors sans vouloir faire comme le PCF à l'époque, c'est-à-dire tout contrôler d'en haut et compagnie, mais quand même, s'ils arrivent, des gars comme Pierre-Yves, par exemple, à venir sur le terrain et à amener ce qu'ils peuvent amener, à aider quand ils peuvent aider, de la façon dont ils peuvent aider les différents trucs, je pense que ça peut quand même servir un moment à structurer, à organiser un peu. Ça paraît peut-être couillon, mais bon, on voit qu'il y avait eu des... Vous avez diffusé des films, vous avez au local de l'IFI, enfin, il y a eu plein de trucs quand même qui sont faits. Alors après, il faut encore le construire, et je dis pas que c'est fait, mais bon, je pense que la NUPES et cette élection, c'est un bon moment, justement, pour qu'on puisse se doter à un moment d'un truc qu'on n'a plus depuis longtemps, c'est-à-dire d'une majorité ou au moins d'un bloc politique au Parlement.
Alors, moi, j'aimerais bien revenir, parce que, bon, il y a des choses qui m'intéressent quand même dans ces législatives. Bon, depuis un moment, je ne votais plus, parce que moi, j'y croyais plus à ces institutions. J'avoue que depuis les présidentielles, j'y suis retourné, pas parce que j'y croyais, parce que je voulais choisir mon adversaire. Et je pense que ça va être encore le cas à ces législatives. Bien sûr que je trouverais mieux que la NUPES l'emporte pour que Macron n'ait pas une nouvelle fois sa majorité et qu'on va se battre, ça va être dur de se battre encore une nouvelle fois. Mais dans la NUPES, c'est quand même, je vais me battre contre la NUPES, hein, ça c'est obligé, parce qu'il y a quand même des choses qui m'interrogent. C'est par exemple cette espèce d'alliance qui s'est créée. Donc forcément, quand tu fais une alliance, le socle commun diminue, hein. Et voilà, dans cette alliance, on retrouve le PC, représenté actuellement par Fabien Roussel. Tu parlais de violence policière tout à l'heure, Nico, ce serait bien qu'on en parle, parce que quand je vois Fabien Roussel qui se retrouve aux manifs pro-flic pour les soutenir et tout, et moi, ça m'interroge. Je reviendrai même pas sur la position pro-nucléaire du PC, qui m'interroge beaucoup. Voilà, il y a des choses, voilà. Donc, ok, la NUPES prend, imaginons, la majorité, on aurait soi-disant un outil. Mais à quel point, où sont les limites de l'outil? Parce que si après, au sein de la NUPES, ils sont pas d'accord, ça, je suis pas sûr qu'il y a un vote, genre t'as 250 députés, je suis pas sûr que les 250 députés votent dans le même sens sur une proposition de loi, quoi.
Et moi, je rajouterais, que le PC, il y a le PS, avec qui vous avez fait un accord, là. Qui récuse le terme de violence policière, par exemple.
Ouais.
Mais ça, c'est dans l'accord, justement.
Ça, c'est dans l'accord.
Les nuances de l'accord qui sont... Concrètement... Les différences sont explicitées. Ça, c'est quand même une première. D'habitude, on met justement les désaccords sous le tapis et on va à l'expression à minima. Ouais. Là, au lieu de choisir une formulation qui irait à minima, sur les questions de désaccord, elles sont explicitées. Et on sait très bien que le groupe majoritaire au sein de l'intergroupe de la NUPES, ça sera celui des Insoumis. Enfin, c'est ça les conditions aussi de l'accord. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, sur le programme, si on prend par exemple la question de la police, je veux dire, le fait que la BAC soit supprimée et que les effectifs soient formés puis redéployés en police de proximité...
Il y a suppression des NAS aussi.
Voilà. Il y a les... Interdiction de... Enfin, un gros changement complet de la doctrine de maintien de l'ordre en manifestation... pour passer un peu à l'anglaise ou à l'allemande, où il y a une distance énorme, en fait, hein, entre les policiers et les manifestants. C'est extrêmement rare qu'il y ait l'affrontement. Donc bon, tout ça, c'est dans l'accord. Et en fait, le fait est que les conditions de l'Union ont été réalisées, y compris parce que on s'est réunis sur un programme clair. Et je vais pas vous dire, au début, quand on a eu les discussions avec le Parti Socialiste, il y a une partie d'entre nous qui se disait « Mais attends, c'est étrange, quoi ». Et en réalité, ils ont rompu enfin avec l'héritage du quinquennat Hollande. Ça fait des années que, d'une certaine manière, une partie des gens attendaient que ça soit ça, le signal clair envoyé. Là, quand le secrétaire du parti, Olivier Faure, dit à Hollande qui dit bah Hollande, il fait comme Cuyandre ici, il tape sur la clore à fond. Et il dit notre ennemi c'est la finance, il rappelle à Hollande ces mots, pas la gauche et les écologistes. Bon, c'est l'idée que finalement le programme partagé c'est celui-là, qu'il est, c'est un programme de rupture comme on disait au départ, et que le Parti Socialiste rompt enfin avec, en fait, avec l'orientation politique du quinquennat Hollande qui a enfanté Macron après, hein, et qui était très porté à droite quand même. Donc, on passe à un nouveau moment politique. Donc, sur les violences policières, il y a ça. Je veux dire, je pense que aussi, par exemple, Roussel, ça lui a été, et on s'est pas privé de lui reprocher le fait d'avoir participé à cette manifestation non plus. Et bon, maintenant, le rapport de force aussi sur ces questions-là, il a été figé par le 10 avril, par le premier tour de l'élection présidentielle en partie. Et sur le nucléaire, qu'on soit. Bon, alors, effectivement, pour des raisons historiques, notamment le PC est plutôt favorable au nucléaire. Mais même les pro-nucléaires aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'il va falloir baisser la part de production nucléaire dans le mix énergétique. Donc, sur un mandat de 5 ans, le Parti communiste va quand même pas dire, va pas commencer à voter les macronistes pour des EPR. Ça serait invraisemblable, ça serait incompréhensible.
Ah, bah oui.
Et donc, on va s'accorder sur un. En fait, nous, c'est planification électrique. Eh bien, comment on fait pour baisser progressivement, monter en charge sur d'autres sources de production et surtout mettre un plan en place de sobriété énergétique. Tout ça va encore, il faut produire en fait sur les questions, sur comment on fait concrètement, avec quel calendrier, on peut produire des points de convergence. Et je pense que quand même, il y a pas mal de communistes qui sont très ouverts là-dessus. Il y en a d'ailleurs qui sont aussi hostiles au nucléaire.
Vas-y, facile.
Ouais, je voulais revenir un peu sur tout ce qui a été dit. Moi, je vais commencer par les alliances. J'avoue que c'est un peu flippant au départ quand on nous annonce qu'on va s'allier avec le PS et tout ça. Bon, moi j'ai passé mon temps à...
Ou Jadot, on n'a même pas parlé de Jadot, mais Jadot aussi, ça m'inquiète.
Voilà, moi j'ai passé mon temps à vilipender la gauche bourgeoise, donc ce que j'appelle la gauche bourgeoise. En gros, qui fait des compromis avec le néolibéralisme actuellement. Pierre-Yves l'a dit, ça a permis une clarification, tout ça quand même aussi, même s'il faut rester vigilant, hein, bien sûr. Hein, on surveille, et puis les masses pourront faire... j'espère qu'il y aura des mouvements de masse, justement, pour faire des pressions, comme lors du Front Populaire, d'ailleurs, sur ce gouvernement et sur ses députés, parce que rien n'est jamais acquis. Je voulais aussi évoquer l'idée que, en fait, en tant que gilet jaune et par rapport à tout ce que j'ai entendu autour de moi, notamment au niveau national, des échos que j'avais avec des gilets jaunes d'un peu partout en France, je pense qu'on a besoin de victoires immédiates aussi. C'est-à-dire que ces mouvements sociaux, ce mouvement social historique qu'a été les gilets jaunes a besoin aussi de victoires immédiates. Parce que sinon, il y a un côté de tourner en rond et de répéter à chaque fois en fait qu'on un peu la même chose, comme si on allait revivre l'histoire, on reprend les ronds-points et tout ça, et alors que beaucoup de gens sont fatigués, usés, tout ça. Et donc là, je pense que tout ce qu'il y a à prendre, il faut le prendre, quoi. C'est-à-dire le blocage et la baisse de prix, parce que ça, c'était une revendication première des Gilets jaunes, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, donc notamment sur le carburant, et pouvoir vivre dignement, quoi. T'as aussi tout ce qui est la fiscalité, ça c'était une deuxième revendication des Gilets jaunes. Donc là, il y a une refonte de la fiscalité avec la NUPES et notamment le rétablissement de l'ISF qui avait beaucoup crispé dans les Gilets jaunes. Sur le volet démocratique, troisième revendication des Gilets jaunes, il y avait le RIC. Et le RIC est présent dans le programme de la NUPES. Évidemment, quand on donne sa voix et quand on vote pour quelqu'un, on ne connaît pas le futur, on n'est jamais sûr que des forces contraires vont pas faire, qu'ils vont pas pouvoir appliquer et tout. Mais je pense que c'est un risque à prendre et qu'il faut sortir de cette espèce de pureté, soit révolutionnaire d'un côté, ou soit pour les Gilets jaunes, l'ADN apolitique, tout ça. Bon, j'en ai discuté par exemple hier avec des Gilets jaunes de toute la Bretagne. En tout cas, on pouvait en parler, il n'y avait pas de problème, on a failli faire un appel pour appeler à la NUPES. Ça s'est pas fait pour X raisons, mais voilà, enfin c'est donc sortir de cette pureté. Et puis pour revenir aussi sur ce que disait Marwan, je pense que c'est important cette formation militante, que ce soit en interne pour la NUPES et pour cette force politique de gauche, ce bloc de gauche. Et je voulais revenir aussi sur ce qui a été dit avant par rapport à ce que disait Pierre-Yves sur le fait d'être vu comme récupérateur et tout. Bah, je pense que nous, on pourra aller dans ces luttes-là et appuyer le fait que c'est pas récupérer, c'est tu as le droit de t'exprimer comme tout le monde dans une AG et tout ça. Moi, maintenant, quand j'irai dans des AG aussi, je dirai d'où je parle et que j'ai soutenu la NUPES, ce volet institutionnel, et ça ne veut pas dire que je ne serai pas dans les autres modalités d'action, ah bah non, c'est-à-dire, et que donc j'assumerai ce truc-là, quoi. Et justement, il faudra, pour moi, l'assumer, et pour ne pas être vu comme un corps extérieur. Mais là, faut vraiment, voilà, en étant sur le terrain, c'est tout à fait faisable. Et des camarades, notamment du NPA, le font, l'ont fait depuis des années. Et je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas se faire.
Petite parenthèse là-dessus, je pense justement, le cadre, on va dire, unitaire, large, etc., favorise ce genre de choses. Ça va baisser le niveau de tension potentielle qu'il y avait, du genre, tiens, telle organisation fait ci, telle autre fait ça. Surtout, bah non, voilà, maintenant, on est unis.
Surtout sur un échelon législatif, qui est beaucoup plus territorial, territorial, beaucoup plus local.
Ouais, d'ailleurs, tu parlais du NPA, ils nous soutiennent. Hein. Bah, ils soutiennent les candidats de rupture qui étaient dans les mouvements sociaux.
Pas partout.
Non, mais du coup,
dans le Finistère, oui. Ouais, voilà, dans le Finistère, mais pas dans toute la France.
C'est ça, on parlait du risque de l'Alliance, par exemple, et là, on est sur les législatives, sur le Parlement et compagnie. Je veux dire, Pierre-Yves, il est là, quoi. Il est à Brest. Il y a un moment, par exemple, une bonne partie du programme, bon, j'étais pas dedans, je sais pas comment ça s'est fait, mais je pense que sur le volet agricole, tu parlais de la Bretagne. Je pense que la Confédération paysanne, elle a dû apporter des éléments. Et je pense que si demain, on revient dessus, enfin. La NUPES revient dessus sur certains points forts du programme sur le volet agricole, au profit d'Europe Écologie Les Verts. Je pense que tu ne te feras pas que des amis non plus, localement. Ouais. Quoi, je veux
on
dire.
Est d'accord en fait, sur beaucoup d'aspects de la transition agricole.
C'est ça, ouais. C'est pour ça qu'il y a quand même un aspect local enfin, à cette élection qui fait que ça peut servir justement à baisser ces tensions.
Alors moi, je vais reprendre la parole pour dire qu'on va bientôt finir, il nous reste peu de temps. C'est des questions, je pense qu'il faudra continuer à creuser, à se rencontrer, à discuter, etc. Voilà, merci à vous tous. On va finir par peut-être un sujet qui est important, qui n'est pas trop dans le programme, qui est celui du néocolonialisme. Pour moi, c'est un sujet clé, puisqu'il articule toutes les facettes quoi, de notre monde, la destruction des cultures et des modes de faire, des modes ancestrales, voilà, qui ont été pillés par les régimes coloniaux, dont la France, quoi. C'est en lien avec la question sociale, puisque c'est souvent des femmes hein, qui font ces boulots de première nécessité, etc. C'est en lien, bien sûr, avec le capitalisme féroce, capitalisme fossile, etc. Du coup, bon, bref. Là, j'ai pas vu grand-chose dans le programme sur, par exemple, politique africaine. Qu'en est-il aussi des pays qui restent colonisés, comme la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, par exemple, qui sont des pays colonisés, toujours, avec un racisme structurel. Et juste, je finis, et après je vous laisse la parole pour finir. Moi, ce qui me tient à cœur, là, c'est de rendre hommage à tous les mouvements, plutôt du coup, là, on parle de mouvements sociaux radicaux, les comités Adama, Entraide et Justice, les collectifs féministes, qui, eux, ont amené sur la place publique des questions fondamentales. Celles du racisme d'État, celles des violences policières. C'est eux qui l'ont amené. Hein. Voilà.
Et puis, comme tu parlais de politique étrangère, qu'est-ce que ça veut dire quand Mélenchon dit « Avec le président, nous parlerons d'une même voix sur la politique étrangère ». Ça me fait peur, ça.
Ah non. C'est censé rassurer. Mais l'idée, c'est que...
C'est opération séduction, ça veut dire.
Non, c'est opération cohérence. Je veux dire, là, il n'est pas possible, sans que ça soit le bordel complet, que le président de la République et le Premier ministre passent leur temps à s'opposer au niveau international, au niveau européen. À part cela, vous êtes sûr que le bloc qu'on est en train de constituer explose en mille morceaux, parce que les gens vont se dire, mais c'est quoi ce cirque ? Donc on dit juste, s'il y a des accords fondamentaux, c'est aussi ce qu'a dit Mélenchon. Il a dit effectivement, le fait est que la France doit parler d'une même voix, mais s'il y a des accords fondamentaux sur des questions de politique de défense ou de politique étrangère, le désaccord sera versé en débat à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est quand même un point, ça serait une innovation institutionnelle au sein de la Ve République, puisque jamais des désaccords entre le président et le Premier ministre n'ont été mis en débat à l'Assemblée. Donc il y aurait un renforcement du pouvoir parlementaire à ce moment-là par rapport à l'exécutif. Ensuite, sur la Nouvelle-Calédonie, Jean-Luc Mélenchon est bien le seul responsable politique à s'en être occupé ces derniers temps. Et à dire que précisément le troisième référendum, les conditions dans lesquelles il avait été effectué étaient absolument scandaleuses, puisque les Kanaks étaient en deuil rituel du fait de l'impact qu'avait eu l'épidémie là-bas. Donc nous, nous nous engageons à le refaire. Parce qu'ils sont pas allés voter, donc tu peux pas dire la décision a été tranchée. Les accords, ils étaient sur plusieurs décennies, et les macronistes, qui ne respectent rien, qui méprisent tout, arrivent à faire capoter un processus qui était censé justement apaiser la situation là-bas. Ils arrivent à le faire comme ça, en disant « Monsieur, on va quand même voter ». Enfin, pour nous, c'est invraisemblable, parce que là, il n'y a même pas une question finalement de droite ou de gauche, presque. C'est une question de respect, juste. Donc après, cette question-là, elle pose un certain nombre de questions. Le comité Adama, effectivement, nous, on les a soutenus aussi depuis le début. On va chaque année, Mathilde Panot, qui est la présidente de notre groupe parlementaire, chaque année, elle va à leur marche. D'accord ?
Après, il y a des clarifications, du coup, puisque le projet de Mélenchon et de la NUPES, c'est de clarifier, c'est ce qu'il répète, clarifier les clivages, etc. Sur cette question-là, par exemple, si on prend la question des comités réseau justice et vérité, des questions des violences policières, des violences d'État, du racisme d'État, pourquoi la veille du premier tour, ils organisent une manifestation? Rien du côté de l'Union Populaire pour aller les soutenir ou manifester un soutien.
C'était quand, ça ?
Juste la veille du premier tour.
On est hors campagne électorale, on n'a pas franchement le droit d'y aller, tambour battant et les drapeaux et tout.
Bon, alors là,
la veille de l'élection.
Tu me réponds sur une
réponse. Moi, j'en sais rien. Mais
c'est stratégiquement...
C'était un samedi.
C'était le samedi.
C'est interdit le week-end de militer, ouais. Le dernier week-end des élections, okay, t'as pas le droit en tant que politique.
Alors là, pour moi, c'est une réponse qui a une certaine limite, quand même. Au bout d'un moment, la transgression, elle est autorisée, quand même, sur des questions fondamentales.
Oui, attends, moi, je tenais pas l'affaire dans le détail, là, faudrait regarder. Enfin, faudrait regarder pourquoi... pourquoi on n'y était pas, moi, je peux pas te répondre comme ça.
Je vous propose... Sauf si vous avez quelque chose à rajouter, de finir là cette discussion. Je vous remercie.
Mais je veux dire, sur le plan concret, récépissé pour les contrôles d'identité, refonte de l'IGPN, redéploiement de la BAC, etc. Sur le plan concret, encore une fois, en partant de ce qu'on va faire, il y a un débouché à la fois aux revendications du collectif Adama et à la fois aux revendications du collectif féministe, auquel moi aussi je rends hommage. Il n'y a pas à s'inventer des divisions inutiles. On est dans le même combat, on est dans le combat pour l'égalité, c'est un combat historique dans ce pays, et c'est ça qu'on va porter et qu'on va essayer de porter majoritairement en juin. Mais donc voilà, c'est... Enfin, on va pas se dire « Ah, t'étais pas là !» Ah ben toi, mais ce que je dis aux gens, dont c'est la pensée de dire « Je vais pas aller voter », « Ah, tu t'es abstenu !» Ben non, on discute. On échange et on se dit « On va essayer de faire et de construire ensemble quelque chose de positif. » C'est ça qu'il faut faire.
C'est ce qu'on a essayé de faire là.
Merci pour ça.
Voilà. Quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Sinon, on arrête là.
Juste pour dire un petit mot sur le néocolonialisme, je pense qu'il faut quand même remettre un petit peu aussi des mots qui ont du sens, quoi. Le néocolonialisme, c'est effectivement, je ne le nie pas, mais je dis que c'est une des conséquences de l'impérialisme.
Ouais.
Qui lui-même est une des conséquences du modèle économique capitaliste qu'on a et qu'on s'en débarrassera jamais. Tant qu'on ne se débarrassera pas du capitalisme à la maison, quoi.
Tout est lié, voilà, ça c'est clair.
Tout est lié, ouais.
Je vous remercie. On arrête cette partie-là et puis on revient avec l'agenda. Et
puis si les gens ont d'autres choses à dire, je sais pas, de rebondir. Parmi le public qui était nombreux et malheureusement pas nombreuses aujourd'hui, on est un peu entre mecs, ça fait...
C'est vrai qu'au niveau de la parité, on y repassera.
On repassera mal là. C'est pas terrible ça. On fait cette petite pause et puis on revient pour la troisième partie, agenda, tout et pas rien, on verra ce qu'on y met tout à l'heure.
Merci.
Donc merci à vous d'être venus, quand même. Vous êtes confrontés à nos idées différentes.
Ouais, c'est intéressant.
Et après, voilà, hein, le débat continue dans la rue, continue ailleurs, quoi, et ne s'arrêtera jamais.
C'est ça.
Alors, on reprend encore une pause Nina Simone, hein,
yes.
Qu'on a dit qu'on faisait une spéciale pause Nina Simone aujourd'hui, avec le morceau Baltimore, que ce coup-ci, je ne vais pas rater de lancer au bon moment. À tout de suite.
Oh. Cora, donne-moi la collade, on va fêter avec panache la grande dégringolade. Quand tombe le rideau sous nos yeux de clown triste et que les braves gens nous snob et nous donnent du
salut l'artiste.
On s'accroche au radeau pour le dernier tour de piste et derrière le comptoir on se noie dans le cynisme, hurlant le seul slogan auquel on continue de croire et qui se résume en deux mots.
À boire.
Ta chanson imagine, cesse de te cogner sur ce vieux mur des Cathy. Tes utopies finissent en droit d'auteur pour Paul McCarthy. Tu sens comme un grand vide, leur monde vibre et rincé. Viens noyer tes rides dans la vodka bien glacée. Laisse-les parader avec leur tête de vainqueur. C'est nous les héros, les magnifiques losers.
Abdallah, ya la la la, balabdallah, ya la la.